Alors, Tachem, que le chiot soit pour la réfoua chelema de Marie bat Thérèse, Sultana bat Esther, Léa bat Mima, Étoile bat Rachel, Yehoshua ben Avraham, Magui bat Léa, Raphaël Moshe ben Brigitte Fleha, Émilie Sarah Léa bat Myriam, Rav Ovadia Yosef ben Gorja, Rav Mordechai Tzemach Eliaou ben Mazal, Jérémy Nissim Raphaël ben Mesauda Bismuth ben Mesauda Michel. Bezrat Hashem, Begam Yaakov ben Yamna.
Et Bezrat Hashem, que ce soit pour tous les Cholamou Israël, pour tous les membres du Ham Israël qui ont besoin de Yeshua, de Bezrat Hashem. Que ce soit aussi pour vous que vous avez des enfants, Bezrat Hashem, cette année. Que tout celui qui a des problèmes qui s'arrange, que tout celui qui n'a pas de problème qui n'en ait pas. Et Bezrat Hashem, par le mérite de la Torah qu'on va étudier ce soir, on revient tous bitchouva chez les mains et on s'attache à la Kadosh Baruch Hu. Je me lever comme ça, je vois toute l'assemblée fournie. Bon, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment privilégié en votre compagnie, puisque je suis en territoire étranger, mais en maison conquise et connue. Puisque depuis longtemps, Baruch Hashem, j'ai le mérite de résonner dans la voiture de notre ami Rabbi David Henry. Tous les jours, il écoute les shiurim et tout ça. Il y a un disque de 25 shiurim, il m'a dit que c'est celui qu'il a écouté le plus. Donc Baruch Hashem, quand on vient ici et qu'on sait que la Torah qu'on étudie et qu'on essaie d'enseigner, elle peut résonner dans le cœur des amis, alors ça fait plaisir et ça nous donne des forces de continuer. On va dire récemment que j'ai même détrôné Michael Jackson. Je vais vous demander comment ça se fait et tout ça, en fait je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas longtemps, il habite à Tel Aviv et tout ça, et il m'a dit que tous les jours quand il amenait ses enfants, ils lui rendaient fou, ils disaient « mais nous Michael Jackson, mais nous Michael Jackson » et tout. Et une fois il leur a mis le CD des quelques gouttes de lumière pour l'éternité, c'est notre slogan. Et il m'a dit depuis ce jour, les enfants ils veulent plus écouter Michael Jackson, ils veulent l'écouter. Alors bientôt je me produirai à Buckingham Palace ou peut-être à Wembley ou dans des endroits un peu insolites. Même si vous voulez on peut faire le chiour au Vélodrome la prochaine fois, on fera au Vélodrome si vous voulez. Je voulais vous parler un petit peu ce soir. J'ai attendu de voir l'état des clients pour pouvoir voir comment il fallait parler, dans quel domaine il fallait s'investir. On m'a demandé de parler un peu du Shalom Bayit, de la construction de la maison, puisqu'il y en a qui vont se marier, il y en a d'autres qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés, alors il faut qu'ils restent mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, alors il faut qu'ils apprennent à faire en sorte de pouvoir construire leur couple de la meilleure façon qui soit. Et vous savez, la Torah Kedoshah, elle nous apprend des éléments qui nous aident à savoir dans quelle direction on doit aller pour pouvoir respecter l'autre, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir le faire exister. Et c'est complètement aux antipodes du monde dans lequel nous vivons, où on essaye d'écraser les autres et on existe par le fait de s'imposer. La Torah, elle te dit, il faut que tu existes par le fait de te mettre en retrait, de laisser la place pour l'autre, pour qu'il existe. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et vous savez, on voit dans ce nouveau Sefer qu'on vient de commencer de Vayikra, et on arrive dans cette fête de Pessah, et on sait que c'est la fête de Pessah, elle a une importance capitale dans le calendrier juif, et c'est une fête du renouveau et de la renaissance, puisqu'on sait que les Bnei Israël ils se sont constitués comme un peuple à partir de Pessah. Et il y a une marloquette dans la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah. Au début de la Gemara, là-bas, il y a une controverse entre les sages, dans la Mishnah même, pour savoir quand est-ce que le monde il a été créé. Est-ce que le monde il a été créé en Tishri, comme on est en train de commémorer chaque fois on fait Rosh Hashanah et ça c'est à Tishri, ou est-ce que le monde il a été créé à Nissan? Et donc le début de l'année serait pendant la fête de Rosh Chodesh Nissan, qui est le mois de Pessah. C'est une contradiction assez insolite et assez incroyable, et on peut se demander comment c'est possible une chose pareille. Le Or HaChaim HaKadosh, il rapporte, pour pouvoir essayer d'être méachev la stira, d'apaiser la contradiction, il nous explique ce que ça veut dire Chodesh, Rosh Chodesh, donc qui est le début du mois, c'est aussi le début de l'année, tout ça. Chodesh, ça vient du Lashon Chadash, du renouveau, du renouvellement de la personne. Et le Or HaChaim HaKadosh, il nous explique que l'homme se renouvelle de deux façons et à deux moments dans sa vie. Il se renouvelle au moment de Tishri et il se renouvelle au moment de Pessah. En quoi ? Le renouvellement d'une personne, c'est quoi? C'est le fait d'être une bria hadasha. Vous savez que quelqu'un qui fait teshuvah, hein, c'est plus la même personne. Imaginez, il s'appelait Brian, hein, c'est l'américain de Beverly Hills et tout ça, avec Brenda et Dylan et les siens. Et c'est des grands partisans. Et Steve Sanders avec sa gouffe à blonde. Vous le rappelez de lui et tout ça, donc, au volant de son troupe espoir. Donc vous voyez celui-là, il a fait teshuvah. Maintenant, il lui dit, ah Brian, comment tu vas? Je te rappelle quand on était à Ibiza et tout ça sur la night, on faisait des parties et tout ça de poker sur la plage et tout. Et il dit, excuse-moi, je m'appelle plus Brian, je suis une bria hadasha, je suis une nouvelle créature, je vois pas de qui tu parles maintenant. Comme ça, il dit le Ramban. Il dit, quelqu'un qui fait tshuva, ça devient une autre personne, des gamrés. Ça veut dire qu'il n'a plus aucune espèce de relation avec la personne qu'il était. C'est comme si jamais il venait de renaître. Et on sait qu'il y a deux teshuvot qui sont faits pour l'homme. Il y a la teshuva qui se fait à Tishri. La teshuva qui se fait à Tishri, c'est une teshuva par la crainte. On revient à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a la Yirat Shamayim. On est en train de vivre les Yamim Adoreim, les jours redoutables de pénitence. Là-bas, c'est juste après, justement, les sessions de Bissa de l'été et tout ça, que les gars, ils vont faire les barboules et tout ça. Ils viennent après, ils commencent à chanter Ben Adam, Alecha Nirdam, Kum Kiram et Tachanonim. Ils commencent à faire les slichot, à demander pardon pour toutes les choses. Là-bas, il n'a pas l'air très crédible. Il arrive avec sa guitare là-bas, avec son bronzage là-bas intégral et tout ça, sa trace du maillot. Tu le vois le type, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Et le gars, il prend conscience de ce qu'il a fait de mal. Il demande pardon à son créateur avec Irat Shabbayim parce qu'il pense au jour du jugement. Il pense qu'il pourra se tenir devant le jour du jugement. C'est un moment redoutable. Tu sais que tu as fauté, tu sais que tu vas te tenir devant Melech Malchab Lachim. Tu sais qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui lui échappe. Il sonde le cœur et les reins de l'homme. Il sait exactement tout ce que tu as fait. Que tu l'aies fait en cachette ou que tu l'aies fait de façon dévoilée, Hachem Yitbarach, rien ne lui échappe. Donc l'homme, il va commencer à trembler, il va commencer à faire tchouva, il va commencer à revenir vers son créateur. Il va renaître. C'est un renouveau et une renaissance. Cette renouveau et cette renaissance, c'est donc le début de l'année où c'est un renouveau pour l'homme. Et ce renouveau, donc, il se passe pour la fête de Tishri, au moment donc par la crainte. Il y a un autre, il nous dit le Haïm HaKadosh, il nous dit il y a un deuxième renouveau pour l'homme. C'est quoi ce deuxième renouveau? C'est la fête de Pessah, le mois de Nissan. On a dit que c'est une renaissance pour l'homme aussi. Cette fois-ci, l'homme, il va renaître non plus par la crainte, mais par l'amour. L'amour de son Créateur. Il va penser à tous les miracles qu'HaKadosh Baruch Hu il a fait pour nous. Bonsoir, Sfikana Hashem Yitbarach. C'est un mot en arabe qui veut dire que je l'aime très fort, alors je vais vous faire partager mes sentiments par rapport à lui et tout ça, parce que je vous aime aussi. Je suis très romantique, je sais. Kadosh Baruch Hu, Rabotai, quand on voit toutes les choses qu'il a fait pour nous, qu'on voit les miracles qu'il a fait, qu'on voit qu'il nous a sortis de l'obscurité à la lumière, tu vois la fête de Pessah et tout ça, c'est des choses incroyables. Il a fait les 10 plaies, il a terrassé les Égyptiens. Chaque génération, Béhiché Hamda, Hachem, il s'est levé, il nous a sauvés de la main de nos ennemis qui ont voulu nous éradiquer, nous exterminer. L'homme, à ce moment-là, il ne va plus faire une teshuva par la crainte, il va faire une teshuva par l'amour. Cette teshuva par l'amour, quand on prend conscience de tout ce qu'Hachem a fait pour nous, alors ça nous engage, nous aussi, à faire pour lui, à revenir vers lui, non plus par crainte, parce qu'on a peur de se faire esquinter le jour du jugement, mais on sait que tout est décidé le jour de Kippour et de ça, le jour de Rosh Hashanah, tout va être décidé pour toute l'année. Donc le gars, il tremble, il a peur, mais cette fois-ci, quand il arrive dans ce mois, il repense à tous les miracles qu'Hachem a fait pour lui, toutes les choses extraordinaires qu'il a fait, et là, il revient à Hachem par amour. Et Rabotai, ça s'appelle un renouveau, donc c'est une recréation. Et on comprend donc qu'il y a deux Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah du renouveau de l'homme par la crainte, qui est à Tishri, et le Rosh Hashanah par l'amour, qui est au mois de Nissan. Et on sait, le Ramban nous explique que la tshuva par amour, elle est beaucoup plus forte que la tshuva par la crainte. Vous savez, c'est marqué dans le traité Yoma, c'est un des traités de la Gemara, de la Torah orale. Nous explique là-bas le traité, celui qui fait tshuva par crainte, on lui efface toutes ses fautes. C'est-à-dire le gars, il repart avec un casier vierge. Il a eu la crainte du Créateur, il a dit Ribono Shalolam, je prends conscience que j'ai fauté, j'avoue ma faute, je m'engage à ne pas recommencer, et je me retrouve dans la même situation et je me dépasse pour ne pas tomber. Ça s'appelle que celui-là, c'est un Baal Tshuva, il n'a plus de fautes à son actif, on lui a effacé toutes ses fautes. Si jamais il a fait ça parce qu'il avait la crainte du Créateur. Si maintenant il fait ça parce qu'il a, donc il a eu des épreuves et tout ça dans sa vie où il a commencé à avoir peur. Si maintenant il fait ça parce qu'il a eu de l'amour, et qu'il s'est assis et qu'il a médité sur tous les mérites qu'Akadosh Baruch Hu lui dispense, sur le fait qu'il a le scoop de respirer, de réfléchir, de penser. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, quelle chance on a de penser. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réfléchi sur ça. Ce muscle là-bas, cette partie de chair que tu as dans ton esprit là, ça peut être un cheval des tropiques, il est capable d'avoir des pensées et des conceptions et de de faire preuve de discernement. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'avais un ami une fois, le pauvre, il est devenu un peu ma boule et tout ça pendant quelques mois. Il pouvait plus réfléchir. On voulait étudier avec lui la Gemara, tu sais, il comprenait plus rien, il pouvait plus penser. À ce moment-là, j'ai pris conscience combien j'ai de la chance de réfléchir, combien j'ai la chance de penser, combien j'ai la chance de comprendre ce que l'autre il me dit, de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir parler avec lui, de pouvoir adonner mon esprit à comprendre la lumière d'Hachem Yitbarach qui est éternelle et qui peut éclairer mon quotidien à chaque instant. Il dit, l'homme il va commencer à réfléchir. Celui qui fait des choix par amour, il a fait toutes les avérotes qu'il avait fait. Elles vont se convertir en mitzvot. C'est-à-dire, le gars, c'est un milliardaire. Plus il a fait d'avérot, le gars, plus il se retrouve, il est refait. D'ailleurs, là, il dit, si j'avais su, j'aurais fait d'autres choses et tout ça. Comment que ça se convertisse et tout ça, le transfert de fonds. Mais il faut pas penser comme ça. Parce qu'on sait que, jusqu'au dernier jour, l'homme, il peut revenir mitchouva et tout ça. Mais il y en a qui ont fait tellement de fautes et s'ils sont au courant qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils perdurent dans leur inconduite, c'est pas sûr que la tchouva, elle vienne dans leur main. Comme ça, dit le Rambam. Il dit quelqu'un, il dit oui, je ferai tchouva dans mes vieux jours. Habibi, tu crois que on va te donner la capacité de faire tchouva. Si aujourd'hui tu prends conscience qu'il faut que tu reviennes vers Hachem, alors c'est aujourd'hui, pas demain. Ne dis pas demain, tu sais si tu vas vivre demain ou pas. Si tu as pris conscience aujourd'hui qu'il faut que tu reviennes vers Akadosh Baruch Hu dans n'importe quel domaine, fais-le aujourd'hui. Parce que si toi tu as la conscience, Akadosh Baruch Hu te donne la force maintenant de faire la chose. Peut-être que demain tu n'auras plus les courants de le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, ouais, si j'avais su, j'aurais pu faire plus d'avérotes. En tout cas, force est de constater qu'une personne qui fait tchouva par amour, toutes ces avérotes, elles sont converties en sprouillotes et ça devient un dépositaire du compte le plus florissant de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est le parrain de la mafia, le gars, il est refait. Ce que je voulais vous dire, le Ramban nous explique comment ça se fait qu'il y a une contradiction, une chose assez impressionnante dans la Torah, marqué assez d'ochelota assez. Que les mitzvot positives, elles repoussent les mitzvot négatives. Vous savez, dans la Torah, on a une interdiction. Peut-être que ce soir, on peut s'attacher par le mérite de ce chiot, vous allez tous aller chez le Bodek Chatnez. Il y a une interdiction de porter une étoffe de lin et de laine. Si quelqu'un, par exemple, il a un costume et tout ça, toujours il faut vérifier dans le costume, démonstration et tout ça. Ici, le costume, dans le derrière, il peut avoir des problèmes de Chatnez. Donc, il faut mettre là-bas, chez le Bodek Chatnez, c'est des gens qui sont des spécialistes en lin et en laine, ils savent faire des expériences extraordinaires. Et là-bas, ils te mettent une petite étiquette comme quoi t'as pas de chatnez, t'es cachère et tu peux porter ton vêtement. Et en Bodaï, cet interdit, il est très très grave. Cet interdit du chatnez, il est très grave. Ça réveille là-bas dans les mondes célestes des anges malfaisants qui peuvent avoir des répercussions terribles, à tel point que quelqu'un qui a du chatnez sur lui, 40 jours après avoir enlevé son chatnez, sa prière, elle n'est pas entendue. Et on sait combien c'est la puissance de la tefila, combien elle est importante et combien toute notre vie, elle dépend de la tefila. Tefila le'el chayai. La tefila envers Hachem, c'est ma vie. C'est grâce à ça que je peux exister, c'est grâce à ça que chaque chose que je veux dans mon existence, dans ma vie, si jamais je la motive par une tefila et que je demande Ribono Shel Olam, soit aide-moi à réussir dans telle et telle entreprise, dans telle et telle chose et tout ça, on sait combien on dépend de la tefila. Chaque chose de la vie, elle dépend de la prière. Imaginez-vous ce marabout là-bas, juste parce qu'il n'est pas allé chez le Bodek Chatnez, il a une étoffe de lin et de laine sur lui, on n'entend pas sa tefila. Et bien écoutez ce qu'il dit le Ramban. On sait que dans la Torah, c'est marqué qu'on a une mitzvah de tzitzit. Et si quelqu'un n'a pas d'autre constituant pour faire son tzitzit que de la lin et du lin, du lin et de la laine, alors il a le droit de mélanger les deux. Il dit comment c'est possible? Ici, il y a un interdit de la Torah de porter une étoffe de lin et de laine. Et ici, on te dit qu'il faut faire la mitzvah positive du tzitzit. On aurait pu se dire, mais si jamais tu n'as pas d'autre chose que la laine, ben alors ne fais pas ça. Comment ça se fait que tu as le droit de faire? Et là-bas, ils nous disent que Asedochelotase, le commandement positif du tzitzit, il repousse le commandement négatif du chatnez, que ce chatnez là-bas, c'est l'étoffe du lin de laine qui est très répréhensible aux yeux de la Torah. Et le Ramban nous explique que c'est précisément quand les deux commandements ils sont à effectuer en même temps qu'on a le droit. Que la mitzvah du tzitzit, elle repousse l'interdit de l'étoffe de lin et de laine. Et le Ramban nous explique comment ça se fait une chose pareille. Il dit parce que tous les commandements qu'on fait, les commandements positifs et les commandements négatifs, c'est des commandements qu'on fait par crainte pour Hachem. Pourquoi tu fais pas, t'allumes pas la lumière le Shabbat et tout ça? Tu t'as peur de te faire décalquer quand t'arrives dans le monde futur, tu vas devenir un chou en bas là-bas et tout ça, tu vas commencer à te brûler comme une brochette là-bas sur la plage. Ouais, tu te vois comme une cuisse à souille, tu te tournes dans la plage, là-bas aussi on va te tourner comme une cuisse à souille dans le ciel. Donc toi on te dit fais attention et tout ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Donc là tu le fais pourquoi? Parce que tu as crainte, tu as la crainte d'Hachem. Il dit mais quand tu fais un commandement positif, c'est un commandement par amour pour Hachem. Et Hachem t'a dit de mettre les tzitzit, tu le fais par amour pour lui. Il dit ce qu'on fait avec amour c'est plus fort que ce qu'on fait avec la crainte. C'est pour ça que le commandement positif il repousse le commandement négatif à Bouteille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, maintenant on arrive à la fête de Pessah. Cette fête de Pessah, c'est une fête du renouveau, comme on a dit. Et c'est une fête où on doit remercier Akadosh Borou et on doit prendre conscience de tout le chesed qu'Hachem a fait envers nous. Et vous savez, ce sur quoi on peut remercier Hachem Yidbarach, c'est de nous avoir donné la Torah. Parce que cette Torah, elle nous permet d'être meilleurs, elle nous permet de travailler sur nous, elle nous permet de pouvoir cohabiter et coexister et vivre avec l'autre. C'est le ciment de toutes les relations humaines. Elle te permet d'être meilleur pour pouvoir respecter l'autre, le faire exister dans ta vie au quotidien et tout ça. Et vous savez que les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas de libre arbitre. Ils étaient dominés par la bestialité et ils vivaient selon les instincts comme les animaux. C'est quoi un animal? L'animal, il vit selon les instincts. De la même façon, les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils vivaient selon l'instinct. Et c'est quoi vivre selon l'instinct? C'est que tu vis en fonction de tes réactions primaires, de ton comportement humain. Tu ne commences pas à te dépasser, tu ne commences pas à te battre et tout ça. On vivait là-bas, on était dans l'esclavage, on nous empêchait de penser, de réfléchir, on nous empêchait de travailler sur nous. Un homme qui est harassé par le travail, un homme qui est harassé par son quotidien, tout ça, il n'est pas prédisposé à travailler sur lui, parce qu'il n'a même pas la force de réfléchir, il n'a même pas le temps de s'arrêter. Et donc toi, tu vis en fonction de tes réactions primaires, tu vis en fonction de tes midodraot. Le Bnei Israël, quand ils ont été libérés d'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a offert le plus beau cadeau du monde, qui est le libre-arbitre. Et ce libre-arbitre, pour pouvoir leur donner pleinement la faculté de lutter contre leur mauvais penchant, leur a donné le remède à ce mauvais penchant. Comme la Gemara nous dit, la Gemara dans la Sirette Kiddushin à la page 30, folio B, elle nous dit « Barati et Tserara, Barati Toratavlin ». J'ai créé le Tserara, ouais, c'est la maladie du monde la plus redoutable qui soit, et j'ai créé comme remède la Torah. Ça veut dire que le remède seul qui peut lutter contre ces forces obscures du Tserara, c'est quoi? C'est la Torah de Chah. Et donc Hachem Yidbarach, il t'a donné la faculté de pouvoir t'emplir de cette lumière, de faire sortir l'obscurité qui est en toi. Parce que nous, on n'est pas comme ce Mzrob de Jean-Jacques Rousseau dans les Confessions. Vous connaissez Jean-Jacques? Peut-être vous avez le livre toilette chez vous et tout ça. Il dit, Jean-Jacques, c'est marrant, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'homme n'est bon, mais la société le pervertit. Il dit, non, on dit complètement l'inverse. Il dit, l'homme, il n'est mauvais, ouais, comme c'est marqué dans Bereshit, Yetzer, Rachel, Adam, Ram, il n'est au Rav. Le penchant de l'homme, il est mauvais depuis sa création, depuis son plus jeune âge. Et la Torah, Kedosha, elle va le rendre meilleur. La Torah, elle va éclairer sa vie, elle va éclairer son quotidien et faire sortir toute l'obscurité qui est en lui et faire rentrer toute la lumière. C'est-à-dire que plus tu étudies la Torah, plus tu te charges d'une lumière qui te permet de lutter contre ce Yetzera. Et le Yetzera, c'est celui qui te rend mauvais par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à tes amis, qui te rend orgueilleux, qui te rend imbu de toi-même, qui te rend coléreux, qui te rend nerveux. Et la Torah, elle t'a donné un élixir de vie qui te permet de lutter, de canaliser ces forces obscures, ces forces négatives qui s'appellent le Yetzera. Il dit, ça c'est le Yesod du Korban. Je vous amène un petit Yesod du Korban. On sait qu'aujourd'hui on vit dans ce monde. Et on sait que la Torah, elle doit changer notre vie au quotidien. Moi, je vous assure, j'étais un marboule avant et tout ça, par le scrou de la Torah. Chaque jour, je vois combien la Torah, elle nous apporte, même si je suis encore fou et que je suis encore très loin. Parfois, je ne me comprends pas forcément très bien avec tout le monde. Mais je vous dis, sans la Torah, combien on aurait été loin et combien on aurait été loin des niveaux qu'on peut atteindre. Quand tu vois les Gdolé Olam, les Gdolé Israël, les grands maîtres de la génération, comment ils se comportent avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs prochains. On raconte une fois sur le Rav Shach, qui était un grand sadique, le Rav Shach. Je peux vous montrer sa photo parce qu'il est présent là-bas dans le livre qu'on a écrit, Baruch HaShem. C'était le maître de tout Israël, 100 ans de Torah. Il a étudié de 100 ans à 103 ans, il a étudié la Torah, de 3 ans à 103 ans. Il n'a pas arrêté d'étudier la Torah. C'est lui, le Rav Shach, le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, que vous avez déjà entendu parler, c'est Yeshiva de Brak, où j'habite. Lui, le Rav Shach, il était très vieux une fois, il était vieux et tout. Et il était très fatigué. Et il y a un gars, il est rentré chez lui et de ça, il a commencé à lui parler et il est resté debout. Et le Rav Shach, il se levait devant chacun qui rentrait chez lui. Savez-vous être un jeune ou un homme qui n'était pas forcément chachoum, tout de suite, dès qu'il arrivait, il venait l'accueillir. Et à un moment, il voit que le Rav Shach, il est resté debout pendant tout un moment et de ça, le Shamash, il a vu le Rav Shach avec celui-là. Il a dit, mais c'est pas possible et de ça, qu'est-ce qu'il fait ce Rav Shach? Pourquoi il est resté debout et tout? Et l'autre, il voulait pas s'attendre devant le Rav Shach parce qu'il avait du respect. Alors le Rav Shach, il venait la glisser à son visiteur, une parole dans l'oreille. Il lui a dit, assieds-toi, il lui a dit. Parce que tant que toi tu resteras debout, il restera debout avec toi. Par contre, il y a un homme qui est âgé de 90 ans. Il est capable, alors que c'est le maître de tout Israël, c'est la lumière du monde. Le gars, c'est une centrale nucléaire, il a toute la Torah dans sa tête. Il est capable de rester devant quelqu'un qui est un ignorant en Torah et qui ne connaît pas grand-chose. Par son kavod, il est capable de rester debout malgré la grande fatigue qu'il a. Comment on peut expliquer une chose pareille? Parce qu'il a reçu l'arme de la Torah, de chaque qu'il a raffiné, qu'il a peaufiné. qui a sondé les profondeurs de son être et qui a sorti l'obscurité et qui a fait rentrer la lumière en lui. C'est une autre personne. C'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a été transformé par la lumière divine. Et la Torah, elle doit transformer l'être de tout un chacun. La Torah, ce n'est pas un livre de philosophie, mes chers amis. La Torah, c'est un livre de vie. Torah Traim, ça veut dire que tu es transformé par ton Shulchan Aruch, tu es transformé par les choses. Et dit le Ramban, il nous explique chaque fois que tu te lèveras d'une session d'études, tu feras en sorte de penser, de réfléchir à ce qui fera de toi un homme meilleur. Si jamais quand tu finis d'étudier, tu es meilleur que ce que tu étais quand tu es rentré, cette étude-là, elle servait à quelque chose. Mais sinon, on te demandera des comptes d'avoir profité de la lumière d'Hachem et de ne pas être transformé aux côtés de cette Torah. Comme on raconte sur un Talmud, une fois il est venu, il a dit devant son rébé, la Gemara dans Maseret Hagigah, elle nous dit que pour pouvoir acquérir la Torah, il faut l'avoir étudiée pendant 101 fois. 101 fois, il faut se battre comme un lion. Imaginez tous les traités du Talmud et tout ça, c'est très difficile. Et un Talmud, il est venu dans son rabbi, il a dit, Rabbi, Baruch Hashem, j'ai fait le Kinyan de la Torah, j'ai traversé 101 fois la Torah. Combien je suis heureux et tout ça, Rabbeinu. Alors le rabbi, il a dit, moi j'ai juste une question à te poser, tout ça, pour savoir si jamais t'as bien étudié les 101 fois et tout ça, je vais te faire une interrogation. Toi, tu dis que t'as traversé 101 fois la Torah, mais est-ce que la Torah, elle t'a traversé ne serait-ce qu'une seule fois? Et si la Torah t'a traversé, alors ça veut dire que oui, t'as fait le kinyan de la Torah, parce que tu seras pas le même après ton étude qu'avant ton étude. Alors, au taille, quelqu'un qui étudie la Torah, on doit le voir sur son visage, on doit voir sur ses yeux, on doit voir dans son comportement, on doit voir dans sa personne, dans les qualités essentielles de son cœur, on doit voir qu'il est différent, qu'il est ailleurs. Et la Gemara dans Maseret Psarim à la page 50, et la Gemara dans Maseret Baba Batra, aussi, et là-bas, je crois, à la page 9, elle dit, s'il y a maintenant qui veulent vérifier, on y va ensemble après ça. Je sais qu'il y en a qui lisent l'araméen parmi vous. Et donc, Rabbi David, il est venu, il a organisé tout ça, vous a rapatrié. Il peut vous revérifier les dapim là-bas si vous voulez. Là-bas, la Gemara, elle dit que dans le ciel, il y a eu des gars, ils sont morts. Il y a un rabbi, il est mort cliniquement. Et ils sont venus, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu as vu quand tu étais dans le ciel. Il a dit Olama Furaiti, j'ai vu un monde inversé. Aïonim les matins, la tartonim les malins. Ceux qui étaient en bas, ils étaient en haut, et ceux qui étaient en haut, ils étaient en bas. Tu vois tous les grands parrains de la mafia et de ça, tous les patrons et de ça qui se mettent en avant, c'était des chèvres là-bas dans le monde futur. Et tous les gars qui se cachaient, qui étaient dans l'ombre, comme Moshe Rabbeinu, comme Yoshua Binoun, des gens qui toute leur vie, ils ont fait montre d'abnégation pour l'âme Israël et d'humilité, ils se cachaient toute leur vie, ils restaient toujours dans les coins obscurs pour ne pas se mettre en avant et tout ça. Il dit ceux-là, c'était les plus élevés, les plus proches du Créateur. Et il a dit, j'ai entendu autre chose dans le monde. Et il lui a dit, Olam Baru Raita. Le Rav qui lui a dit cette chose-là, il lui a dit, tu as vu un vrai monde, tu as vu. C'est comme ça que le monde, il est vraiment. Ce monde-là, c'est le monde du Elem. Elem, ça veut dire le cachette. C'est un monde où on a toutes les choses qui sont complètement inversées, les valeurs, elles sont complètement inversées. Tu respectes le gars pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a, pour l'argent qu'il a. Dans l'Olam Abba, ce que t'en as rien à faire. Tu te vides de tout, tu vas tout abandonner dans ce monde-là. Tu vas là-bas qu'avec ton talit. Dans ta vie, c'est quoi? C'est les mitzvot que tu as fait dans ta vie. Toutes les amessirut nefesh que tu as fait pour tes frères, pour les sortir de la difficulté, de la pénombre. Tous les gens qui étaient en difficulté, tu les as aidés, tu les as fait sourire. Tu leur as ramené un peu de lumière dans leur vie. Il y a un autre là-bas, il est là-bas jeté dans un hôpital. Toi, au lieu d'aller jouer au PMU là-bas avec Marcel et Josiane, au PMU du coin, au lieu d'aller au parc Bourrille en train de faire le swing avec le golf et tout ça, tu vas aller là-bas à l'hôpital et tu vas t'occuper de ton frère qui est en souffrance. Tu lui amènes à manger, tu lui amènes à boire, tu lui fais blanchir ses dents en lui faisant des sourires. Habibi, tu tiens le monde. Le monde, il repose sur toi parce que tu as fait quelque chose et tu t'es rendu utile. Tu as fait quelque chose de ta vie. Tu t'es investi pour ton prochain. Dans ce monde-là, tu vois que les gars qui font les patrons, les pachas et ça, ils ont la Porsche Ferrari là-bas. Le gars, c'est un parrain de la mafia et tout. Celui, le respectable et tout ça. Mais l'autre, là-bas, il te fait pitié. Le gars qui va dans les hôpitaux et tout ça, il dit, ben, il a rien à faire de ses dimanches, donc il va faire ça. Dans le monde futur, Abouda, tout est inversé. Il a entendu autre chose aussi. J'ai entendu une phrase qui résonnait là-bas dans le monde futur. Hachemi Shebalekan Betalmudo Beyado. Heureux l'homme qui vient dans le monde futur avec la Torah dans sa main. Alors, Rabbeinu Yona, il demande une Shela. Mon maître Rav Emmanuel Toledano, qui est un des grands maîtres de la génération, Baruch Hashem, qui était la Chavruta du Rav Shach, dont je vous ai parlé précédemment, il a dit au nom du Rav Shach, il demande cette question de Rabbeinu Yona. Il dit pourquoi c'est marqué heureux l'homme qui vient dans ce monde futur avec la Torah dans sa main? Il aurait dit avec la Torah dans son cœur, ou avec la Torah dans sa tête. Quand tu viens là-bas avec le gars là-bas de l'aéroport de Marseille, là-bas, Saint-Exupéry. Comment ils appellent ça, l'aéroport de Chèvre, là? Vous ne connaissez pas le nom de l'aéroport, genre, c'est pas grave. Et le gars, il arrive à l'aéroport et tout.
Il arrive à l'aéroport avec son carton de 150 kilos de livres. Le gars, il dit, c'est pas possible ce soir, monsieur, vous pouvez pas, là, il y a l'excédent et tout ça. Là-bas, t'arrives dans le ciel, si jamais t'arrives juste avec un petit truc léger, on te dit, c'est pas possible. Ça veut dire, le monde, il a inversé, on a dit que le Aulamafoura ici, j'ai vu un monde inversé. Est-ce que ça veut vraiment dire cette chose-là? C'est une image, Aulamafoura ici, ça veut pas dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire alors, j'ai vu un monde inversé? Il t'explique, en fait, c'est quoi, heureux l'homme qui vient avec la Torah dans sa main. Il dit, et pas dans sa tête et dans son cœur. Normalement, on aurait dit dans son cœur qu'il a intégré les choses. C'est pas le tout d'avoir la Torah dans les yeux. Moi, je viens avec mon carton de lit dans les mains, c'est bien. Et de dire à Benoît quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi qui vient avec la Torah dans sa main? C'est que dans ses actions, tu vois toute la Torah qu'il a étudiée. Quand tu vois la pureté et la profondeur de ses actions, la finesse et le raffinement de toutes les choses qu'il fait, tu vois que celui-là, il a dans son actif beaucoup, beaucoup de Torah. Parce que c'est pas possible qu'il se comporte d'une façon aussi exemplaire si elle ne l'avait pas aussi étudiée. Mais Habibi, si toi tu viens quoi avec la Torah dans ta tête et dans ton cœur, mais dans tes actions, tu es en inadéquation avec ce que tu prônes, que tu n'es pas la preuve de ce que tu es. Tu dis, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais comme les prêtres. Enfin, Jean-Paul VI et tout ça, et les tiens, sa famille. Tu vois, de Benoît IV. Le gars, il vient, ça, il dit, ouais, faites ça, et la Torah, et ça, et le gars, tu le vois, il fait complètement l'inverse de ça. Notre Habib, il t'en dit, parle peu et agit beaucoup et reçoit chacun avec affabilité. On n'a pas besoin de commencer à faire des discours, on commence à faire des choses pour un exemple pour tes frères. Renforce tes frères. Montre-leur que la lumière de la Torah t'a transporté, elle t'a transformé, elle t'a permis d'aider les gens autour de toi. Et quand on va voir cette chose-là, tu vas rapprocher les enfants d'Hachem Idvara. Arbotaï, la vocation de tout un chacun, c'est de rapprocher les enfants de leur Père qui est dans le ciel. Hachem Idvara, t'es là pour ça dans ce monde. Et par quoi tu le fais? On n'a pas demandé d'aller comme les Marboulim, les Vadé Loubavitch, ils vont sur les plages et tout ça, ils vont en train de mettre les téfilines aux gens et tout ça. Habibi, est-ce que tu penses que toi t'es en train de voir des femmes à moitié nues, tu vas là-bas? C'est vrai que toi t'as la visva de protéger ton frère, mais est-ce que toi t'es pas en train de te faire déchirer ta néjama? Fais attention à ça, on t'a pas demandé de commencer à tourner. Khaïra Kodmim, ta vie elle doit passer avant celle de tes frères. C'est comme ça. Mais d'un autre côté, toi tu dois être prêt. On te dit, ne va pas commencer à tourner dans le monde et tout ça. Sois un exemple pour tous ceux qui sont autour de toi. À partir du moment où toi t'es un exemple pour tous ceux qui sont autour de toi, c'est la meilleure façon de ramener tes frères à toi. Donc je vous expliquais que la Torah, c'est une façon de vivre. C'est pas une philosophie, c'est pas une pensée, c'est pas quelque chose où on se dit, ouais, on a passé un bon chiot et ça, on est des grands intellectuels. Moi, je pourrais vous faire un chiot intellectuel et ça, moi j'ai fait des études à l'université comme vous et tout ça, ne croyez pas, et ça, je suis pas né à la yeshiva malheureusement. Mais ce que vous avez pas, c'est que si jamais j'avais pas fait des études, j'aurais été encore plus brillant que ce que je suis. Maintenant, je suis une chèvre, parce que j'ai pas assez étudié. Mais si jamais j'avais étudié les gens qui sont à la yeshiva en Israël, à Pognovitch, qui étudient depuis 20 ans ou 30 ans, ils peuvent jouer au golf avec moi, ils peuvent jouer au bi. Et moi, pourquoi les gens, ils m'aiment? Tu vois, ils m'appellent, les gars, là-bas, ils me disent. Ils disent, pourquoi les gars, ils veulent m'écouter, tout ça? Pourquoi il y a plein de gens qui viennent, je vais de ville en ville dans le monde, et tout ça, je vais parler? Parce qu'ils voient, oui, Yankel Abergel, maître de droit international et tout ça, il a fait la maîtrise de droit international, c'est un homme important et tout ça. Habibi, tu crois que c'est grand, ça? Tu crois que là-bas, dans cette maîtrise de droit international, on m'a appris à respecter ma femme? On m'a appris à éduquer mes enfants, on m'a appris à respecter mes parents, on m'a appris à faire exister mon prochain, on m'a appris à le déchirer, à le faire exister. J'avais des professeurs à l'université, ils enseignaient le droit de l'homme, ils étaient accusés d'avoir tué leur femme. Un gars, il s'appelle le professeur Viguier, il a écrit un... C'est parti pour la censure, les gars, parce que sinon, c'est le CSA qui va me rechercher après. Le professeur Marboul, là-bas... Le professeur Viguier là-bas, c'est celui-là, il ne peut pas venir, c'est pas grave. Je regardais parce qu'il y en a qui viennent au fur et à mesure, on les attend et tout ça. Il dit, celui-là, il a écrit le crime parfait. Ça veut dire, il a écrit un livre sur comment exterminer quelqu'un sans se rendre compte de ça. Tout le monde sait qu'il a fait quelque chose, mais comme il n'a pas de preuve. Donc le gars, il t'enseigne les droits de l'homme, il t'enseigne les libertés publiques et tout ça, et il est accusé d'avoir tué sa femme. C'est bien. Il dit, ouais, donc toi, t'es un grand universitaire, et tout ça, on t'écoute pour ça. Il dit, mais tu vas voir des talmides et rachamim, là-bas, ils sont la preuve de ce qu'ils disent. Ils n'ont pas besoin de parler, ils n'ont pas besoin d'apprendre des théories, des choses. Ils vivent leur Torah, ils vivent avec le MS, avec la vérité. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Qu'est-ce qu'on en a fait de toutes les théories? Qu'est-ce qu'on en a fait de toutes les connaissances, de toutes les choses si tu les mets par l'application? Et en fait, je vous dis, à Kadalboukou, quand même, passé par là, parce que je devais me rentrer dans des sphères dans lesquelles les gens ne comprennent pas que le kavod, c'est pas d'avoir des études. Le kavod, c'est d'être fatalement sacram, d'avoir étudié toute la Torah parce que tu es raffiné grâce à ça. Mais je vous dis, si jamais tu vois les gars, ils peuvent jouer à la pétanque, hein, parce que j'aurais pu être un cochonnet pour eux. Tu vois quelle puissance ils ont, quel gadlout ils ont, c'est des sommités, des lumières du monde. Tu les vois comment ils se comportent avec leurs femmes, avec leurs enfants. Est-ce que nous, à l'université, on a appris comment on se comporte? Ce métier-là qui est le plus difficile d'être un parent, C'est la seule chose qui ne nécessite pas de permis de conduire. Tu t'apprends des permis de conduire de l'avion là-bas, de l'hélicoptère, de la voiture. Tu dois faire, par exemple, la médecine, tu dois avoir un permis. Tu dois être avocat, tu dois avoir un permis. Chaque chose, tu dois avoir un permis. La seule chose qui ne nécessite pas de permis, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants. C'est la chose la plus dangereuse et la plus périlleuse de l'univers. Si ce n'est pas la Torah qui te donne l'équilibre pour savoir comment tu dois faire pour pouvoir t'occuper de la neshama, dosha et teroa qu'Hachem t'a placé, tu te rends compte que tu bénéficies d'avoir entre tes mains une prolongation d'Hachem Yitbarar, une neshama dosha d'un enfant d'Israël, Rabotai. Combien c'est précieux, combien c'est cher. Tu as un enfant, et là le marabout il est en train de jouer au rugby avec lui, il croit que c'est un ballon, il va confier un ballon là-bas, il va faire le 15 de France là-bas, il va faire Fabien Barthez et tout ça, il va prendre le ballon, il va faire un coup de pied dedans, il va faire un 6 mètres avec l'enfant, ils lui font sauter là-bas. Habibi, tu te rends compte que tu as une neshama kedosha et teroa entre tes mains. Si tu ne sais pas comment la diriger, la faire atteindre le tahlit, la finalité de son existence, qu'est-ce que tu vas devenir, Sébastien? Qu'est-ce que tu vas devenir à tout ça? On t'a donné cette sadique là dans ta main. Comment tu vas faire pour le faire grandir? Comment tu vas faire pour le protéger des mauvais regards? De la pub de Dior là-bas, bienvenue, et de ça, la femme qui t'agresse là-bas, à chaque coin de station là-bas, tu te fais agresser. Là-bas, l'autre, elle vend des tomates, elle est nue, l'autre, elle vend du savon aussi, l'autre, elle vend et la pub du PMU, bientôt, c'est plus les chevaux qui courent, c'est les marmoulas et tout ça. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu vas faire pour pouvoir protéger ton enfant? Comment tu vas faire pour pouvoir le diriger dans la bonne direction? Si tu connais pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, c'est pas tes enfants, Habibi. C'est pas ton enfant, c'est l'enfant d'Hachem. Il t'a juste confié cette responsabilité de ce tzadik, de cette tzadikette qui a mis cette neshama dans tes mains. Toi, tu dois faire en sorte de ne pas fonctionner d'après. Oui, c'est le choix personnel de la population, là, il faut respecter chacun et tout ça. Nous, on n'est pas trop religieux, donc. Habibi, mais c'est pas ton responsabilité. Ta responsabilité, c'est d'amener cette neshama à Hachem Yitbarak, de lui rendre le joyau aussi pur que ce qu'il t'a donné. T'amener une neshama purgée de toutes les fautes. Tu dois faire en sorte qu'elle traverse toute cette vie en ayant des chars blindés. Ces chars blindés, c'est la Torah et les mitzvot qui lui permettent de pouvoir évoluer, de ne pas se brûler dans le monde obscur dans lequel on vit. Alors, on vit dans un monde perverti. On est rentré dans le 50e degré d'impureté, dans la 50e porte de l'impureté. Et comme ça, il nous dit le Rachel Makadosh, à la fin des temps, on va rentrer dans cette 50e porte de l'impureté. Depuis mai 68, la libéralisation de la femme, oui. La femme et tout ça, l'égal de l'homme. Habibi. La femme comme objet de convoitise et de commercialisation, c'est l'instrumentalisation de la femme à des fins négatives et à des fins commerciales. C'est ça la femme que tu respectes, c'est ça la femme que tu dis, c'est l'égal de l'homme. C'est oui, le chef d'entreprise là-bas, la barbara, tout ça. Habibi, est-ce que tu penses qu'il ne faut pas que tu t'occupes de tes enfants? C'est pas beaucoup plus le carotte de faire grandir des lumières qui éclaireront toute l'humanité. Combien le rôle de la femme il est important dans le foyer à Bataille, de prendre des enfants, de les faire grandir. Le mensonge que la grâce, vanité que la beauté. Seule la femme qui craint l'éternel est digne de louange. Cette femme-là, elle est en train de s'occuper de ses enfants. Elle aide son mari à étudier la Torah, elle a une parnassa et tout ça, mais elle ne fait pas une carrière. C'est la finalité de son existence, c'est pas d'être la patronne de tel et tel truc. Elle sait qu'elle est en train de faire ce qu'il y a à faire et tout ça, mais elle le fait parce que c'est une obligation, mais son accomplissement d'elle-même, c'est pas d'avoir réussi dans tel et tel domaine, dans tel et tel milieu, dans tel. L'accomplissement, c'est de faire que mes enfants, ce soient des tzadikim. Comme il y en a une fois, il disait, moi je m'occupe de toutes les choses importantes dans la maison, et ma femme, je lui donne toutes les choses qui sont secondaires. L'éducation des enfants, par exemple, et ça, c'est ma femme. Et Habibi, t'es venu dans ce monde pour faire grandir des gens. T'es venu dans ce monde, Hachem, il t'a confié des neshamot, tu dois les faire grandir dans la bonne direction. C'est ça le kavod, Rabotai. C'est pas le fait qu'on te dit, oui, voilà, la femme, l'égal de l'homme. La femme, c'est le monde de l'intériorité, l'homme, c'est le monde de l'extériorité, comme les organes génitaux en témoignent. Je ne vais pas vous faire de dessin parce que je n'ai pas de tableau. D'habitude, je fais quelques petits dessins, ça comme à la faculté de médecine et tout ça. Merci beaucoup. Donc, la femme et l'homme, c'est le monde, l'homme, c'est le monde de l'extériorité. Il a été conçu pour ça, pour affronter les regards des autres, pour sortir au charbon, pour aller se battre, pour aller se disputer, pour aller faire toutes sortes de choses. Mais la femme, c'est le monde de l'intériorité. Elle est fragile, elle est fébrile. Il faut la protéger. Il ne faut pas la mettre en exhibition comme ça, comme c'est dans ce monde-là. Les gens, ils ont leur femme, ils la mettent là-bas, à la potiche là-bas du truc. Habibi, t'as pas honte. Ta femme, c'est une tzadikette. Cache-la, préserve-la des regards. Fais qu'elle ne soit pas une embûche devant les aveugles. Fais qu'elle ne soit pas une embûche devant tes amis. Après, Chas Veshalom, combien on voit d'adultères, combien on voit de problèmes de couple, combien on voit de familles qui sont déchirées avec des enfants, avec toutes sortes de jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a voulu ressembler au peuple et aux nations. On a voulu vivre comme eux. On dit oui, le kawad, c'est que la femme, elle soit l'égale de l'homme. Rabbi, t'as rien compris à tout ça. Je voulais vous parler juste une petite parenthèse sur les korbanot, puisqu'on a dit que la Torah, c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. En quoi le korban aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut comprendre et concevoir, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash? Le korban, c'est quelque chose qu'on apportait quand on avait fait une faute involontaire. Quelqu'un, il a fauté involontairement, il doit amener un korban, c'est une bête. Il t'amène là-bas la bête et tout ça. Le salon de l'agriculture et tout ça, avec Jacques Chirac et les siens. T'amènes Jacques Chirac là-bas, voilà, la bête du Beth Amikdash. Tu t'amènes là-bas le salon de l'agriculture, tu prends la bête, tu l'approches là-bas du Beth Amikdash et tu l'amènes sur l'autel qui est le Misbéar pour expier la faute que tu as fait. Et le commandateur, il demande une question, il demande le Rambam, le Orachaim Akadosh, il demande, arrête quelqu'un qui a fauté de façon involontaire. Il dit, pourquoi tu lui fais faire un corban? Il dit, ma bonne diraso, tu vas lui faire engager des grands frais. Une bête, ça coûte 2 ou 3 000 euros, c'est très cher une bête. Tu amènes cette bête au Beth Amikdash et tout ça. Il dit, il n'a pas fait exprès, l'erreur est humaine. Comme ça, on se dit, l'erreur est humaine. Comme ça, c'est la phrase des Eora Humanum Est, pour ceux qui connaissent un peu le latin. Il dit, le gars, donc, il ne comprend pas pourquoi tu t'amènes un corban pour expier une faute que tu n'as pas faite de façon involontaire. La Torah, elle vient te révéler une chose extraordinaire sur les corbanotes. C'est quoi? C'est que, en fait, tu dois comprendre que l'erreur, elle n'est pas humaine, elle est animale. Il dit, si quelqu'un, il a pu allumer une lumière le Shabbat, si quelqu'un, il a pu oublier qu'on était Shabbat ou quoi que ce soit, il a pu oublier un commandement de la Torah, hein, c'est que l'homme, il a une dichotomie en lui. Il a le penchant au bien et le penchant au mal. Il a la neshama, il a le gouf, il a le corps et il a l'âme. Il dit, quand est-ce que quelqu'un il peut fauter? C'est si jamais il déconnecte son esprit d'Hachem. À partir du moment où la partie animale qui est en toi, elle a pris le dessus sur la partie du malin, de l'ange, qui est la neshama, ça s'appelle que tu as fauté. Tu as détourné ton esprit, tu as détaché ton esprit d'Akadash Baruch Hu, donc là tu as fauté. Donc les Chachamim nous disent, si jamais la partie animale qu'il y a en toi, elle a pris le dessus sur la partie du malheur qui est en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois amener un korban. Et on sait que ce korban-là, on devait s'assimiler à lui. Ça veut dire qu'on devait sentir que c'est comme si nous, on était à la place de ce korban. C'était une mitzvah. Et c'est que comme ça, si quelqu'un n'avait pas la kavana appliquée, il n'avait pas la concentration et le cœur en train de faire ce korban, ça ne servait à rien ce korban. Ce korban, il doit être associé au fait que toi, tu dois dire, voilà, moi, normalement, j'aurais dû mourir à la place de cette bête, mais cette bête, elle va mourir à ma place. Il dit, quand quelqu'un il fait une chose pareille, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il extirpe la dimension animale qu'il y a en lui et il approche sur l'autel, sur le misbéar qui est Kulo Rouhani, qui est entièrement spirituel. Il dit, à ce moment-là, il a extirpé le penchant mal qu'il y a en lui et il a fait rentrer la lumière et à ce moment-là, il fautera plus. Pourquoi? Parce que la partie animale qui avait en lui, elle a dominé la partie spirituelle. Donc toi, tu vas prendre la dimension animale qu'il y a en toi et tu vas l'approcher de la cadavre où tu vas dire, voilà, je sacrifie cette partie. Et il dit, c'est quoi ces choses-là, Boutaille? Aujourd'hui, on ne comprend plus très bien ces concepts. Tandis que chacun, il a une partie animale en lui. Lui, il a le tigre qui est en lui, Fal Frostiz. Vous connaissez Tony avec son bandana et son rouge et tout ça. Frostiz, le tigre est en toi. Dit le gars, il arrive chez lui et ça, sa femme, toute la journée, elle a attendu, elle a proposé, elle a réparé les pommes dauphines, et le shawarma et tout ça, il a préparé un très bon plat, kitcha salawiya, kitcha msouya, halwa de zinzlen, halwa de noix. Des plats et tout ça, riches et variés, tchouk-tchouka, zahalouk, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains parmi vous, je vais vous dire des plats utilisés si vous continuez comme ça. Ou là, le hachis palmentier, oui. Vous êtes français, vous tous, vous êtes nés là. Moi, je suis né au Maghreb, alors c'est pour ça que j'ai une pétillance maghrébine. Ta femme, elle t'a préparé, toi, tu t'es énervé avec là-bas Jean-Paul et Jean-Louis et Jean-Luc et Jacqueline là-bas. Toute la journée, ils t'ont tapé sur le système, t'arrives chez toi. Toute la journée, t'as voulu te comprendre, t'as voulu faire bonne figure auprès des gens qui étaient autour de toi. T'as pas voulu se battre contre eux, ça. T'arrives là-bas et tu vas libérer le tigre qui est en toi, tu vas le lâcher sur ta dramanite là-bas, sur ta sadéquette qui t'attendait toute la journée avec ce repas. Elle attend toute la journée que son mari rentre et lui, il arrive, il libère le tigre qui est en toi. En bouteille, c'est un criminel de guerre, celui-là. C'est un crime contre l'humanité qu'il est en train d'accomplir. C'est un marboul. Il faudrait le mettre dans la prison normalement, il faut lui mettre des gifles. Peut-être qu'on peut le mettre en prison, le gars. Le lendemain, il faut avoir la fièvre de cheval là-bas. Il reste là-bas. Il y a un jeune jumper, il fait Lucky Luke. Comme ça. Il y a le sarcophage là-bas, Sébastien, le sarcophage, tout ça, il reste là-bas, il dort. Il dit, parce qu'il a la kpada de sa femme. Sa femme, il a fait le regard là-bas en croc parce que toute la journée, tu fais bonne figure. Oui, José, tout ça, avec sa cravate, ça, le grand patron, le grand pacha, et tout ça, oui, vous allez bien et tout. Avec chacun, t'es agréable. Tu arrives, tu laisses le tigre échapper en toi. Rabotaï, c'est quoi le korban? c'est que toi t'as envie de te battre, toi t'as envie de déchirer quelqu'un et tu vas contenir les passions et les pulsions négatives que tu as en toi. Ça s'appelle que tu as fait un corban à Jalil Barar, tu as sacrifié le tigre qui est en toi, tu as fait faire faillite à l'usine de Frosties Kellogg's, tu leur as fait faire la ça c'est fini pour eux et tout ça. Et dire à lui t'es le meilleur de la même façon. Un gars, il a l'ours polaire, il vient le recouvrir et tout ça, il lui met une petite cape et tout ça. Le matin, il vole à la tuile, le gars, à 6h du mat, c'est les larmes, c'est les croches et tout. Il dit là, il sent que l'ours, il est venu lui faire des câlins. À ce moment-là, le gars, il dit non, je ne peux pas sortir, il fait trop froid dehors et tout. Toi, tu vas te dire, les bonos shalolam, Hachem, il m'a donné la force d'ouvrir mes yeux. Il m'a donné la neshama, elle était dans le ciel. Elle a prié, elle a pleuré pour ne pas revenir dans ce marboule. Chaque jour, il amène dans des mauvais endroits. Et chaque jour, il okaï neshama, je n'attends pas de yata berata. Tous les jours, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, Modani Levanecha, Melechai Vekayam, Shezarta Benishmati, Bechamla Rabbe Minotecha, Hachem, tu réitères ta confiance en moi chaque jour. La Neshama, elle monte, elle dit, Ribono Shalom, je t'en prie, ne me vois pas dans ce marmoule, il va m'amener là-bas dans le Pacha, dans Ibiza, avec les cerises et les ch'touillottes, et le ch'tou qui va m'amener là-bas dans le café de la plage, là-bas, au karaoké, là-bas, j'étais une fois là-bas avec des gars et tout ça. Je les ai fait sortir, bien sûr. Le café de la plage, il va m'amener dans tous ces trucs et tout ça, je vais mourir là-bas, je vais être triste. Ça n'est jamais, il a jamais dit sois patient ma fille, t'inquiète pas, une fois il va faire tchouva celui-là, il va t'amener à la yeshiva, il va t'amener à la Beta Knesset, il va t'amener dans les hôpitaux pour soutenir les malades, il va t'amener en train de faire des mitzvot à t'occuper des gens qui sont autour de toi, ne t'inquiète pas, sois patient. Et Hachem il renouvelle sa confiance chaque jour à Botaï. Il dit là, tu vois qu'Hachem il t'a rendu ta neshama et t'as l'ours qui est en toi, il te dit non. Ça y est, il faut dormir et tout ça, je vais te couvrir avec mon bonne polaire là-bas, la grande couverture du léopard là. Il dit, Habibi, toi tu vois Hachem en face de toi, tu vas sacrifier l'ours qui est en toi, Habibi. Oui, ni l'ourson, tu le jettes par la fenêtre. C'est une nouvelle blague pour vous ce soir. C'est un one-man show, man. Je parle anglais parfois parce que je vais aller à Londres, je dis bien déjà, je m'entraîne un peu avec vous. Et je vais prendre oui, ni l'ourson, tu vas le sortir par la fenêtre, Habibi. Tu as sacrifié l'ours qui était en toi, tu as fait un corban à Kadosh Baruch Hu, Hachem il compte comme si tu avais fait un corban. Par quel mérite tu peux réussir à canaliser tes passions et tes pulsions? Par quel mérite tu peux réussir à canaliser ta paresse, ton orgueil, tous tes nerfs, ton casse? Par le sroud de la Torah avec Dosha qui est le remède de Yessara, qui est le pire choix du monde. Dis le gars qui a libéré le tigre qui était en lui, sur le moment il est satisfait là-bas, à le jaguar. Il va y aller avec son jaguar et tout ça, c'est un patron et tout. Mais il dit juste après combien il a du mal-être d'avoir brisé sa femme, d'avoir brisé ses enfants, de leur avoir fait mal au cœur. Il a déchiré quelqu'un, combien il est triste. Il dit c'est le Yetzerara, Boutaï. La guerre contre le Yetzerara, que lui veut te faire miroiter des choses, le tout de suite, vas-y, il laisse échapper toutes ces choses. Et la Torah vient te canaliser tes passions et tes pulsions. Ça, c'est la plus grande chose qu'on doit remercier à Kadosh Baruch Hu le soir de Pessah, mes chers amis. Hachem, il t'a donné la force avec la Torah de sortir de la dimension animale, de la dimension bestiale que tu étais à Mitzri, tu étais un Égyptien là-bas, où tu subissais, tu n'avais pas de libre arbitre parce que toute la journée tu étais harassé. Maintenant, Hachem t'a donné la faculté de t'asseoir chaque jour étudier la Torah pour les garçons, pour les filles, d'apprendre comment l'autre y fonctionne pour le respecter et pour l'honorer, d'apprendre à te renforcer dans la foi et dans le bitachon de Hachem. Aoudaï, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit, combien on doit de reconnaissance envers Hachem. Celui qui veut avoir la reconnaissance pour accorder le coup et faire tes choix par amour, comme on l'a dit, dans ce mois propice de Nissan. Il doit penser à qu'est-ce qu'il aurait été sans la Torah et qu'est-ce qu'il peut devenir avec la Torah de chat. C'est un autre homme, il va changer complètement les gamins, c'est quelqu'un de nouveau. Pour terminer, je vais vous dire quelques petits sodotes que j'ai entendus. Parce que je dois m'enfuir parce que ma femme, le matin, elle va me terrasser sinon. Parce que chaque jour, je sors, je vais dans des chiourines partout. Et après, je ne peux pas être avec ma femme, alors je vais être triste. Il faut aussi que je m'occupe de mes enfants, de ma femme. C'est important, les frères du Ham Israël. Ils sont très importants, mais la femme aussi, elle me permet de partir partout, il faut que je sois un peu avec elle aussi. Alors je vais vous dire quelques petits éléments, après je vais vous serrer dans mes bras. S'il y en a qui veulent le CFR, vous pouvez le prendre, il y a le disque, il y a le site aussi, www.toradelumière.com, avec un H, toradelumière.com, c'est nous. Comme ça on garde le contact à Bretagne, parce que vous avez des visages tellement rayonnants et tellement lumineux, ça me fait tellement plaisir de vous voir que je ne peux pas me séparer de vous comme ça, il faut qu'on reste ensemble. Vous allez tous me donner vos mails, chaque jour je vais vous envoyer une petite pensée du jour et tout ça. Je vais vous dire, je pense à vous, pensez à moi et tout ça. S'il y en a un qui a des problèmes de racines et tout ça, il m'envoie des mails, il me dit voilà, on a ça et ça. Moi je demande à mes rabbinim, ils me disent et on va réussir à harmoniser toute la fin. Je vais vous dire que le yesod du shalom bayit et le yesod de la construction du couple, c'est justement ce fait que l'homme il doit prendre sur lui de travailler. Et vous savez, je voulais dire aux filles qui sont là et aux garçons qui sont là, que la meilleure assurance d'être heureux dans sa vie, c'est de se marier avec quelqu'un qui étudie la Torah. Parce que quelqu'un qui étudie pas la Torah, il se travaille pas lui-même, il n'a pas la force de lutter contre son etc. Celui qui travaille sur lui, alors le scoop de la Torah déjà qui peut lutter contre le penchant au mal qui est le etc., tu as l'assurance que tu vivras heureuse toute ta vie, parfois parce que l'autre va chercher à te comprendre, à te respecter, à t'honorer, à te donner ta place de choix dans ton foyer. Il va toujours devant tes enfants, il va te mettre en valeur et tout ça. Il dit, mais quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, il y a sa femme, elle énerve ou quoi, elle est différente de lui. Aujourd'hui, il aime et tout ça parce qu'il est attiré physiquement et tout ça. Après, le temps passe, on s'habitue. Si on ne respecte pas les lois de pureté familiale, alors ça ne peut pas exister. Parce que la monotonie, c'est ce qui tue les couples. Aujourd'hui, pourquoi tu vois que le gars, il est prêt à aller avec Arantxa Chantxas Vicario? Vous connaissez Arantxa Chantxas Vicario de Roland Garros, la finaliste. Des gars, ils sont tellement marmous, ils ont une femme, elle est magnifique, ils peuvent aller avec la portugaise du coin. Avant sa chanchette. Pourquoi? Il dit parce que le gars il s'est tellement lassé. Il n'a pas de ridouche dans sa vie. Rabbi Akiva dit chaque mois, quand je reviens du mikvé, je sens comme si jamais je m'étais marié avec ma kala, c'était une kala jdida. Elle est nouvelle. C'est comme si je venais de me marier. Pourquoi? Parce que la Torah déjà te donne le ridouche, le goût du renouveau et tout ça. Il dit quelqu'un qui étudie par la Torah, toute sa vie il est monotone, il est monocorde, il n'a pas de ridouche dans sa vie. Il se lève, il va au travail, ça, il va, il revient. Il n'a pas de simchat chaïm. Alors vous savez pourquoi vous croyez que moi je suis un marboule et tout ça, je suis content de vivre et que je suis heureux d'exister? C'est parce que la Torah déjà elle me transperce le cœur, elle me rend fou. Vous dites, moi j'attends pas Pourim pour être libre, je suis libre toute l'année par la lumière de la Torah déjà, je m'enivre avec ça, je suis fou de joie. Pourquoi? Parce qu'on a la Torah en bataille, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vivre. T'arrives chez toi, t'as bien étudié, tu peux respecter ta femme, tes enfants, etc. Si jamais t'arrives chez toi et que tu t'es énervé, c'est que t'as mal étudié toute la journée. Ma femme me dit parfois. Je me dis, si jamais aujourd'hui t'es de mauvaise poils et tout ça, tu t'es là, ça veut dire que t'as pas bien étudié, t'as dû faire des ch'touilles, tu vas au collège, tu t'es pas fait ta tête dans le limon. Parce que quelqu'un qui étudie, il revient, il est transformé par la lumière de la Torah. Et ce que je voulais vous dire, c'est que une femme, elle doit savoir que si jamais elle veut être respectée, honorée par son mari, il doit savoir que seule la Torah, déjà, elle peut remettre l'homme en face de ses responsabilités, le faire travailler sur lui-même, le faire se bonifier, le faire se purifier, le faire s'élever. C'est par la lumière de la Torah, sans ça, c'est impossible. Il dit, le gars, il croit, non, moi, je vais étudier le manuel là-bas de l'homme et de Vénus et de Mars et de Jupiter et Platon et tout ça. Je vais commencer à faire de la philosophie, je vais aller chez le conseiller juridique là-bas, chez le conseiller des relations charnelles et tout ça, il va m'aider de ça. Rabbi, c'est pas vrai. La Torah, c'est la seule chose qui peut t'aider parce que Hachem, il va voir qu'il a conçu l'homme. L'homme, c'est l'enfant d'Hachem. Hachem, personne ne connaît mieux un fils que son père. Hachem, il te connaît, il t'a donné le guide et le mode d'emploi pour bien vivre qui est la Torah. Plus tu te conformes à ce mode, plus tu seras heureux dans ta vie. Et si jamais tu n'as pas cette lumière, tu ne peux pas lutter contre ton mauvais penchant. Ton mauvais penchant, c'est celui qui sème la zizanie dans le couple. C'est lui qui veut t'énerver contre ta femme. Il veut faire en sorte que toi tu sois orgueilleux, que tu t'enorgueillisses, que tu écrases l'autre, que tu ne le fasses pas exister, que tu veux prendre de l'autre, que tu ne veux pas donner. La différence de l'Etzeratov, Rabotai Etzera, c'est que l'Etzerara, il veut prendre, et l'Etzeratov, il veut donner. Il dit que celui qui vient dans le couple en faisant que prendre de l'autre, il casse son couple, il est déchiré. Celui qui vient pour donner et faire exister l'autre, il réussit. Et ça, c'est la lumière de la Torah, il n'y a que elle qui peut nous aider. Et à notre sens, pour le Shalom Bayit, mes chers amis, on aurait pu parler de quelques heures encore, mais malheureusement, je vais m'échapper, vous aussi, vous allez vaquer vos occupations. Et je vous remercie beaucoup de vous être déplacés aussi nombreux, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait que quelques âmes, mais finalement, on est une belle équipe ce soir. Chaz Hashem, je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est le fait de savoir ce que Eliezer, vous connaissez Eliezer? Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. Abraham, il a dit, tu vas aller me chercher une fille. Pour mon fils, tu vas aller me chercher une femme pour mon fils Yitzhak. Et il est parti là-bas, dans la maison, et il a vu là-bas Léa, c'était chez Lavan et tout ça, c'était des gens Betuel, des gens très très pervertis. Et il a dit, la femme qui va donner à boire à mes chameaux, et qui va donner à boire à mes serviteurs et tout ça, c'est elle que je prendrai comme épouse pour mon fils Yitzhak. Parce que Abraham Avinu, c'était le Baal Chesed de la génération. Il avait sa tente ouverte aux quatre points cardinaux pour accueillir tous les passagers du monde et répandre le Gvod Malchut Shamayim, répandre la gloire d'Hachem dans le monde. Chaque fois qu'il leur donnait à manger, il leur disait, faites le Birkat Hamazon, remerciez, il voulait lui dire merci. Ça, il disait pas moi. Il dit, moi je vous ai juste accueilli, mais c'est un cadeau de vous qui m'a donné quoi vous donner à manger. Remerciez le créateur de toutes choses. Les gens, ils se disent, pas possible. Regarde celui-là. Il n'est pas venu profiter de nous. Non seulement il nous donne, s'il ne fait que nous donner, il ne fait rien prendre de nous, c'est sûr qu'il est venu pour nous donner. Donc ils avaient confiance en lui, ils se sont rapprochés d'Akadosh beaucoup grâce à ça. Donc plus c'était le Baal Tzedek, donc lui, qu'est-ce qu'ils ont cherché pour lui? Une fille qui était Baal Tzedek. Et ils sont venus, et lui il a fait des tfilot. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu et Rabotai, la force des tfilot, c'est elle qui nous fait trouver le zivouk. Et c'est elle qui nous permet de préparer comme il se doit notre mariage. De faire en sorte d'être préservé du etc. pour ne pas avoir trop de promiscuité avant. Et j'ai expliqué à un ami hier que plus on garde les distances avant et plus on est proche après. C'est la liaison de tout. Plus on a réussi à rester de Kdusha et Tara avant le mariage, et plus quand on se marie on a la bracha et la bénédiction de Kadosh Baruch Hu parce qu'on est parti sur des bases saines. Quelque chose d'extraordinaire. Donc il dit, donc toi tu dois prier dans ce temps. C'est comme, il dit, il y avait un rap, c'est un rap Shalom Arouche, il dit c'est comme si jamais tu as toute la feuille, elle est vierge. Et toi tu es en train de faire toutes les tfilotes qui vont t'aider à arriver le jour de la Koupa de la meilleure façon qui soit. En même temps, il dit, c'est là comment il veut te déchirer, comment il veut te casser ton mariage, comment il essaie de faire des embrouilles entre les familles, les belles familles, les beaux-parents, les fils, les beaux-fils, les belles filles, les belles-mères et tout ça surtout. Chacun, il essaie de le déchirer, il veut des techniques et tout ça, il veut le trahir et tout ça. En mode, si c'est pas la tfila qu'on envoie à Hachem du fond du cœur, on n'a pas de chance de s'en sortir. Et il explique là-bas les Mefarshim que Eliezer, il s'est allongé à même le sol, il a supplié à Kadosh Baruch Hu, à Hachem Yitbarach, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi la femme de mon. Et pourtant, lui, on sait qu'il voulait marier avec sa propre fille. Mais il a dit, moi je suis là pour faire la volonté de mon maître et d'Akadosh Baruch Hu. Il a annulé sa volonté devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de son maître pour faire triompher la volonté d'Hachem dans le monde. C'est marqué qu'à ce moment-là, directement dès qu'il a terminé sa prière, la femme elle est arrivée. Et quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit à Rabouda? Il a dit, ni Hachem, ni Atsa Adava. C'est sûr que c'est de Akadosh Baruch Hu qu'est sortie la chose. Et même Lavan et Betuel, qui étaient des Rechaim Gumurim, des gens qui étaient pervertis au possible, quand ils ont vu avec quel émouna, avec quel bitachon il s'est comporté, quand il a vu toutes ces choses-là, ils ont dit aussi, d'Akadosh Baruch Hu est sorti la chose. Et Rabotai, ça c'est la base de toute la paix dans le foyer. Sache une chose, que ta femme c'est pas toi qui l'a choisi, et ton mari c'est pas toi qui l'a choisi, et qu'il n'y a personne de mieux que lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi pour toi, c'est bien Hachem Yatsadava. Hachem il t'a donné la meilleure personne pour toi, pour construire ton foyer, pour construire ton couple. C'est la personne qui l'a plus appropriée pour toi. Ne crois pas que tu aurais pu être plus heureux si elle avait telle ou telle femme ou telle femme, et tu vois la femme de ton copain, ah, regarde comment elle prépare bien le Shabbat et tout ça. Tu sais pas tout ce qu'elle lui fait dans son dos quand tu pars, et ça, elle fait la vieille, et après elle le déchire et ça. Chacun en bataille, il est venu avec son petit coude. Ça, c'est le yesod de toute la paix dans le couple. Celui qui sait qu'il a eu la meilleure chose et que c'est de Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la personne. Et s'il y a eu des épreuves, c'est que Akadosh Baruch Hu l'a jugé bon, que l'homme il devait se purifier, se purger et travailler sur lui. Si la femme a des épreuves, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé que dans ce domaine-là, elle devait faire. Et il dit ça, ça te change complètement la vie. Il dit quelqu'un, quand il a des problèmes avec autrui, toujours dans la société dans laquelle on a été habitué à vivre, qui est une société de l'individualisme, du fait de prendre, pas de donner, on remet toujours la faute sur l'autre. Il dit quelqu'un qui vit comme ça, il réussira pas dans son couple. Si quelqu'un, à chaque fois, il essaie de prendre et de voir quelle est sa responsabilité dans le litige, quelle est sa responsabilité dans l'affaire, il dit lui, il sortira toujours plus grand de ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé par toutes les épreuves qu'il a eues. Dans une épreuve, tu as deux façons de faire. Soit tu gênes la responsabilité sur l'autre et donc tu t'es voilé la face et tu es passé à côté de cette clé qu'Akadosh Baruch Hu avait donnée pour t'élever. Soit non, tu te dis, attends, si jamais cette femme-là, elle m'a fait ça, c'est pas possible que quelqu'un me fasse quelque chose dans ce bas monde si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a donné l'autorisation de le faire. Donc toi, si tu comprends cette chose-là, toutes les choses qu'on m'a fait, c'est parce que c'est Hachem qui a décidé. Et dit à la limite, regardez bien, et c'est sur ça qu'on se sépare sur cette pensée magnifique. Joseph Hatzadik, quand il a vu ses frères, qu'il avait vendu, qu'il avait fait toutes sortes de choses et tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mes frères, je vous aime. Sachez que c'est pas vous qui m'avez vendu là-bas. Joseph Hatzadik, il a vécu pendant 12 ans dans la prison, Rabotai, 12 ans. Il était un jeune enfant, il s'est fait agresser par cette Poutifar là-bas, cette Mzroba là-bas. Elle a voulu avoir des relations interdites avec lui. Et lui, il a fait Messie Routnefesh, il a vu son père, son grand-père, son arrière-grand-père, il a dit, je viens d'une famille de Tzadikim, je peux pas rompre ces maillons de cette chaîne magnifique. Il a dit, il faut que je m'enfuis. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait à cause de ça, Rabotai? À ce moment-là, elle a dénoncé, et lui, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire à ce moment-là? Il aurait pu se dire quoi? Tzadik, Vera, non. Si jamais j'avais pas fait cette mitzvah, si jamais j'avais fait la Vera avec elle, j'aurais pas été en prison. Maintenant que j'ai fait mes sirop de pour ne pas faire cette Vera avec elle, qu'est-ce qu'on fait comme salaire? On m'envoie dans la prison. Et Yosef Tzadik, il est jeté en prison pendant 12 ans. Personne n'avait qui parlait des Divrei Torah. Personne n'avait qui se réchauffait dans la Emouna, dans le Bitachon, dans la foi et dans la confiance en Hachem. Et enfin, il retrouve ses frères. C'est un homme puissant. Il a le monde entre ses mains, toute l'Égypte, c'est le vice-roi d'Égypte. Il peut déchirer ses frères, les frères ils commencent à trembler. Il a dit, mes frères, n'ayez pas peur, je vous aime. C'est Hachem qui m'a envoyé en Égypte pour vous donner la parnassa. Ne croyez pas que c'est vous qui avez fait quelque chose. Je vous demande pardon. Le Sefat Sadik, presque, il était en train de demander pardon à ses frères. Avoda, les gars, ils l'ont vendu, ils ont fait des choses avec lui et tout ça. Il sait, Yosef HaTzadik, une chose. Et Adam, nos kefets, baum, il est matin, il a une ken, machlezim, alav, il est malade. La Gemara dans la Masechet Truin, dans la page 7, folio B, elle nous dit qu'un homme ne peut pas lever, ne peut pas heurter le doigt de son prochain sur terre si ça n'a pas été décrété dans le ciel. Si tu prends une gifle, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné la permission de te donner la gifle. Yosef HaTzadik, il dit, si jamais je me rebelle contre celui-là, c'est comme si je me rebelle contre Hachem. Mes frères, ils m'ont présenté, si jamais je me rebelle contre cela, c'est comme si je me rebelle contre Hachem. Et encore plus loin, Yerucham Lebovitch, dans le Torah, il dit quelque chose de magnifique. Yosef HaTzadik, il a presque demandé pardon à ses frères, qu'à cause des avérotes kaviyachol qu'il avait fait, il a occasionné le fait que ses frères ils auraient dû lui donner cette punition. Et il dit, c'est la même chose dans le couple. Quand ta femme elle te fait quelque chose, ou quand ton mari te fait quelque chose, qu'est-ce que tu dois penser? Tu dois te dire, si jamais j'avais pas eu cette mauvaise comportement, si je ne méritais pas, cette femme-là, elle n'aurait pas fait cette chose-là. Ça veut dire qu'en fait, je dois avoir de la miséricorde et de la pitié pour elle, d'avoir été l'instigateur, qu'elle soit mon bâton pour me donner la punition que j'ai reçue de la Kadosh Baruch Hu. En réalité, c'est un yesod qui est lumineux et qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui peut changer la vie d'une personne. Parce que l'homme, il s'habitue à avoir sa responsabilité, il s'habitue à revenir vers l'autre. En réalité, la majeure partie des discordes et des dissidences qu'il y a dans un couple, c'est que chacun, il va trouver sur ses positions. On n'a pas envie d'aller vers l'autre. Habibi, tu crois que c'est de la faiblesse d'aller vers l'autre, c'est de la grandeur d'âme. Et je le dis pour moi le premier en bataille. C'est des ratachem, je fais du moussard, je suis en train de vous dire des leçons morales, mais c'est pour moi que je parle. La grandeur, c'est d'aller vers l'autre, de faire le shalom pour Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit content. Quand tu viens consoler ta femme, c'est comme si tu consoles la shrina. Tu consoles ton mari, c'est comme si tu consolais la shrina, la présence divine. Et il dit, c'est ça, je demande pardon d'avoir fait que, à cause de mes avérotes, toi tu es dû me donner cette punition. C'est quelque chose de magnifique. Et c'est marqué dans la Gemara, Yatsot Hashem d'Archeïl, comme il va y Hashlimito. Si quelqu'un il fait teshuva, il revient vers Hashem, même ses ennemis deviendront ses amis. Pourquoi? Il dit, puisque lui il fait teshuva, il n'a plus besoin d'avoir d'ennemis, puisqu'il n'a plus besoin d'avoir de punition. Donc toi, par la teshuva que tu fais, tu permets à l'autre aussi de faire teshuva, et cet ennemi-là il va devenir un ami. La Gemara dit, c'est sur qui qu'on parle? C'est sur la femme et les enfants. Si tu reviens des teshuva, et que toi tu n'as rien à te reprocher, puisque personne ne devra te donner des punitions, même celui qui a décidé de faire le mal, il ne pourra pas faire le mal avec toi. C'est-à-dire que tu rends le monde meilleur par ton comportement. Alors, vous avez celui qui s'échange tout seul, lui-même, il peut changer le monde entier. Alors, nous n'aimons que par la lumière de la Torah, que de ça, on change chacun de nos personnes, qu'on travaille sur nous, qu'on prenne conscience de la grande chance qu'on a d'être les dépositaires du message d'Hachem. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on est les plus riches du monde. On est les plus grands milliardaires de la terre. On est le trésor, le joyau le plus précieux, qui est bon pour tous les enfants d'Israël, qui peut rendre la vie meilleure de tous les gens dans l'univers. Il dit, Bédrat Hachem, qu'on passe pas à côté de cette chance qu'on a d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit des bons représentants d'Hachem, qu'on soit des bons ambassadeurs, que Bédrat Hachem, par le trou de notre Tchouva, on ramène tous les gens à la Tchouva et que le Mashiach y vienne et qu'à ce moment-là, il n'y aura que du Shalom Bayit dans tout le monde, Bédrat Hachem.